Tout un monde.
Marie-Hélène Freixé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous regardons vers la Chine et vers sa culture ancestrale en compagnie de Jacques Pimpano et de Jean Lévy qui sont avec nous jusqu'à 16h. Avec son milliard, presque 400 millions d'habitants, sa puissance économique, la Chine inquiète en même temps qu'elle séduit par la richesse foisonnante de sa culture, profondément enracinée dans 4 millénaires d'écriture. Comment mettre en cohérence les deux personnages contradictoires qu'inspire l'idée de Chine, le businessman agressif et le lettré poète calligraphe ? L'impitoyable casseur de prix et d'emploi et le sage, détaché, serein, adepte du non-agir. La Chine, c'est sans doute tout cela et son contraire. Il faut bien avouer que nous y perdons un petit peu notre latin dans tous les sens du terme. Voilà pourquoi il se révèle bien utile de recourir à des savants orientalistes, surtout quand ils sont également conteurs et prêts à nous tendre la main pour nous indiquer le chemin vers la Chine, passeur au pluriel, passeur de Chine. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, donc avec Jacques Pimpano, Jean Lévy, bonjour à tous les deux. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre avec ce terme de passeur de Chine, Jacques Pimpano?
Vous savez, je ne suis pas passeur, j'ai été toute ma vie instituteur de chinois, puisqu'au Langzhou, les gens partent de zéro, donc j'ai été instituteur de chinois.
Instituteur et professeur, c'était langue et civilisation à Langzhou.
Oui, moi j'ai enseigné la langue classique surtout, mais il y a en effet au Langzhou à la fois des cours de langue et des cours de civilisation.
Qui sont les élèves du chinois aujourd'hui?
Ça a beaucoup changé. Moi j'ai connu la période où c'était des gens qui étudiaient le chinois pour fuir leur propre civilisation. Aller le plus loin possible. Mm-hmm. C'était l'époque où j'étais étudiant. Après, on a eu la période maoïste.
C'était les militants.
Les militants. Qui, je me souviens d'une fois en cours, il y avait, prenez des textes assez simples, des histoires, petites histoires chinoises, et les élèves avaient fait une pétition, un groupe d'élèves avait fait une pétition en disant qu'ils n'étaient pas là pour lire des textes un peu distrayant, mais pour les œuvres du président Mao. Et leur pétition, ils avaient tous signé lisiblement, ce que j'avais beaucoup respecté. Et donc, je leur dis simplement, c'était comme à la Chambre des députés, il y avait la gauche et la droite. Et je leur dis, pourquoi Mao, pourquoi pas Baden-Powell, catéchisme, quand vous y êtes. Et à ce moment-là, ma droite éclate de rire. Et je me tourne vers ma droite et je leur dis, voyez-vous, il y a une différence entre eux et vous. Vous, vous n'aurez jamais 20 ans. Eux, ils auront eu 20 ans. Et après, c'était des gens qui avaient un idéal. Et puis maintenant, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé. C'est des gens qui espèrent faire du business en Chine.
Alors, vous êtes d'accord avec cette image contrastée que j'ai donnée au début, moi qui ne suis pas du tout spécialiste de la Chine, mais évidemment intéressée par des ouvrages comme ceux que vous avez écrits récemment, puisque vous venez nous voir l'un et l'autre avec deux ouvrages qui nous tendent la main pour comprendre la Chine. Jacques Pimpano, pour rester un instant aussi avec vous, vous êtes d'accord avec ces deux images comme ça qu'on a dans la tête? Là, il y a le businessman d'un côté,
oui,
et il y a le sage.
Oui, mais je mettrai quand même une nuance à ce que vous avez dit.
Oui.
Parce que vous dites que ces gens qui cassent les emplois. En tous les cas...
Bah, c'est l'image qu'on en a,
oui,
on délocalise.
Mais,
faudrait
un peu la rectifier parce que je me souviens de... C'était justement à la radio, on interviewait l'ambassadeur de Chine et qui disait, mais attendez, à qui ça profite? Il disait, un jeu de Lego fabriqué en Chine coûte aux Français 1,20 €. Il est vendu ici, je l'ai vu, plus de 20 €. Alors, à qui ça rapporte
Un jeu de Lego qui n'est pas un jeu de Go, en l'occurrence.
Non, non.
Alors, Jacques Pimpanot, on va dire que vous êtes, vous venez de nous le dire, professeur, vous l'avez été une bonne partie de votre vie, vous êtes aussi romancier, vous êtes aussi... Oh bah si, tout de même, vous venez nous voir avec un roman tout à fait formidable qui s'appelle « Les quatre saisons de Monsieur Vu » ou « Monsieur Vous ». Puis vous avez été le directeur d'une magnifique collection que malheureusement la France a laissé partir, qui était la collection Pocone, car vous vous intéressez aussi aux objets de la Chine.
Oui, ben j'avais, étant instituteur au Langzhou pour les gens qui veulent étudier le chinois, ça me semblait aussi important de faire connaître en dehors du cercle des gens qui étudient la langue, à tout le monde, quoi. Et c'est la raison pour laquelle mes livres sont d'habitude faits pour tout le monde, c'est pas fait pour les collègues. Et d'autre part, je m'étais dit, tiens, faire un petit musée, parce que le hasard de ce don de M. Kuokon. Et du coup, j'ai développé ça pour créer ce petit musée. Mais ceci dit, il n'est plus en France, mais enfin, il est à Lisbonne.
Donc, il est accessible.
Il est accessible, et puis ça a permis de... Ça fait participer de la fondation de ce nouveau musée à Lisbonne, de la Fundação Oriente, où il y a le premier musée sur l'Asie au Portugal. Ce qui est paradoxal, il n'y a pas de musée sur l'Orient au Portugal, alors que c'est eux qui ont découvert l'Orient.
Jean Lévy, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes professeur depuis longtemps donc, au CNRS, chercheur. Vous êtes spécialiste plus particulièrement, on va en parler, du taoïsme. Vous êtes romancier. Alors vous, vous allez le reconnaître plus volontiers parce que vous avez fait plusieurs romans.
Oui,
quand
j'ai
même.
Écrit des romans.
Hein?
Oui,
non, notamment un qui était consacré à l'empereur jaune. Vous êtes,
non, sur, au premier empereur. C'était... s'appelait le grand empereur et ses automates.
Et c'est pas lui qu'on appelait l'empereur jaune ?
Non, non, l'empereur jaune est un empereur mythique qui est le fondateur en quelque sorte de la civilisation et de l'État chinois. L'empereur, donc, il n'a rien fait, il n'a fait aucun mal, tandis que le grand empereur, lui, a une existence réelle et elle a été plutôt néfaste. Enfin, en tous les cas, ceux qui vivaient à son époque ont senti sa poigne.
Alors, vous êtes venu nous voir avec deux livres tout récents qui sont passionnants. D'une part, Le Petit Monde de Chuang Tzu, et on va tout à l'heure lancer la conversation entre vous et Jacques Pimpanot sur Chuang Tzu, qui est un auteur que le public français quand même commence à lire. Il y a eu des controverses autour et vous, vous nous faites pénétrer dans ce monde avec ses personnages foisonnants. Et puis également, vous venez nous voir avec un livre, très beau livre, L'art de la guerre, que vous avez publié, dont le texte a été publié il y a quelques années, mais vous revenez avec un livre illustré, et L'art de la guerre qui devient une sorte d'école de vie.
Voilà, c'est-à-dire que j'ai voulu prendre le contre-pied de tout ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on considère maintenant que l'art de la guerre, c'est devenu une sorte de bréviaire du chef d'entreprise. Ils sont là, et c'est devenu leur livre de chevet, et ils pensent qu'avec, grâce à ce livre, ils vont pouvoir monter sur la tête de leurs collègues, s'emparer de marché. Enfin, c'est devenu en quelque sorte une espèce de clé pour la réussite commerciale. Et puis même maintenant, ça a dépassé la simple vie professionnelle, c'est devenu aussi pour réussir sa vie sentimentale. Enfin, et disons, c'était un peu contre cette dégradation de ce livre qui est un beau texte et qui traite de choses sérieuses, c'est-à-dire de la guerre dans toutes ses dimensions, et en particulier sa dimension, quelque sorte, où l'on tue des gens, je veux dire, c'est quelque chose de meurtrier. Et c'est pour ça que j'ai voulu montrer, disons, le contexte historique dans lequel cette réflexion s'était développée.
Donc, l'auteur est Sun Tzu, ou je ne sais pas si on prononce comme ça, Sun Tzu.
Oui, Sun Tzu, ça va très bien.
Et ça date du 6e siècle avant
non.
Jésus-Christ.
Il y a des
doutes là-dessus. Hein,
c'est-à-dire
oui.
que l'auteur est, à qui on attribue cette œuvre est du 6e siècle, tout à fait fin du 6e siècle.
Mais ça a été retravaillé.
Ah, c'est un texte qui date du 4e, voire du 3e, à certains. Oui, du 4e, parce que la guerre qui est faite qui est décrite par le Sun Tzu, est une guerre qui est une guerre de masse et qui ne correspond absolument pas à la guerre du VIe siècle avant notre ère.
Chen Zong, un musicien traditionnel chinois qui était de passage à Radio France il y a de ça une quinzaine d'années et auquel Okora a consacré un disque. Alors Jean Lévy, Jacques Pimpano, bon, je ne vais pas étaler votre bibliographie, elle est extrêmement copieuse grâce à vous les uns et les autres. Nous avons pu plonger dans ces univers chinois, mais quand on consacre toute sa vie à l'étude d'une civilisation qui au départ n'est pas la vôtre, on peut imaginer qu'il y a une rencontre. Au départ, il y a une rencontre, il y a un éblouissement, quelque chose qui fait que vous avez eu cette, on va même parler de vocation. Alors Jacques Pimpano, pour vous, ça s'est passé comment ?
Je vais vous décevoir. J'ai été élève et bon, ça marchait plutôt bien. Je voyais le moment où j'allais devenir professeur de français, latin, grec. Et je me suis dit déjà, on a tout dit ce qu'on pouvait dire. Je ne dirais plus la même chose maintenant, mais enfin, à l'époque, donc j'avais 17-18 ans. Et je me suis dit, il faut trouver une autre civilisation. Et je voulais une civilisation qui soit importante par sa culture ancienne, mais aussi vivante aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai rejeté l'égyptologie. Puisque l'Égypte d'aujourd'hui n'a plus de rapport avec l'ancienne Égypte. Et là, je me suis dit, tiens, avec la Chine, c'est bien parce que y a, c'était l'époque, justement, de la fondation de la République populaire. Et je me suis dit, c'est une bonne idée parce qu'il y a une civilisation ancienne et une civilisation moderne qui continue. Et à l'époque, je n'avais pas du tout envie de devenir professeur de chinois. Mon idée était de créer une galerie d'art à Pékin pour faire connaître des jeunes artistes français et une galerie à Paris pour faire connaître des jeunes artistes chinois.
Donc c'était professionnel au départ.
Voilà,
c'était un projet d'entreprise.
C'était purement rationnel, ma démarche. Et je me suis aperçu très vite, en commençant à m'y intéresser d'un peu plus près, que c'était hors de question à l'époque d'installer une galerie et de faire venir des gens parce que ça, c'était le début d'une époque très dure en Chine. Et donc, même en commençant à voir ce qui se passait en Chine, j'ai même carrément pris peur parce que je me dis ce qui se passe en Chine pourrait très bien se passer chez nous. On a déjà nos commissaires politiques ici qui sont prêts à se manifester. Et donc,
donc ça se passe à la fin des années 50, Jacques Pimpano ?
C'est dans, au cours des années 50. Et à ce moment-là, je suis parti en Chine en 58, après avoir fait mes études ici. Et je me suis dit, il faut, du coup, je me suis intéressé à la littérature. Parce que je me suis dit, avec la littérature, quoi qu'il se passe, il suffit de mettre quelques bouquins dans une valise et on peut fuir n'importe où. Mais il faut toujours être prêt à s'en aller. Donc voilà comment je suis venu à la Chine, non pas du tout par
oui, mais après, la Chine s'est emparée de vous en quelque sorte, parce que c'est de ce désir un peu superficiel enfin,
oui, mais...
et professionnel a découlé quand même l'engagement d'une vie.
Oui.
Mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça quand même. Même si vous regardez ça avec un sourire, parce que c'est votre style, Jacques Pimpano.
Oui, mais heureusement qu'elle travaille pour se distraire, n'est-ce pas ?
Alors Jean Lévy, vous, votre rencontre avec la Chine.
Ma rencontre avec la Chine, c'est le fruit d'une méprise. C'est-à-dire que quand j'ai fini mes études, je voulais faire de la peinture, mais en même temps, je savais qu'avec la peinture, je ne gagnerais pas ma vie. Et donc, il fallait trouver quelque chose à côté.
Vous avez des origines chinoises ou pas?
Absolument pas. Non, non, je me suis intéressée à la Chine pour des...
Je vous dis ça parce qu'on peut, en regardant votre visage, on peut imaginer qu'il y a quelque chose d'oriental
Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Alors, il se peut que le type physique ait joué, mais c'était tout à fait de façon inconsciente. Ou alors, peut-être, il se peut que mon type... soit devenu chinois par espèce
par imprégnation.
Oui, imprégnation, ça arrive aussi, par le contact. Mais en tous les cas, disons, quand j'ai je me suis lancé dans l'étude du chinois, c'était par une méprise, parce que j'aimais la peinture, je voulais faire de la peinture et je voulais trouver une profession qui puisse me permettre de vivre. Alors j'ai hésité entre la médecine et puis le chinois. Alors le... j'ai longtemps hésité. Bon, la médecine, il y a beaucoup de médecins qui font de la peinture et c'est quelque chose qui permet de vivre tout en ayant une activité artistique en dehors. Et le chinois, ça m'a intéressé parce que j'étais très peu doué pour les langues. J'ai fait de très mauvaises études de latin et je voulais... mais en même temps, ce qui me fascinait dans le chinois, c'était l'écriture. Me dit, c'est de la peinture, c'est quelque chose qui va pouvoir me permettre d'apprendre une langue, alors que j'ai jamais pu apprendre aucune langue, et en même temps de satisfaire mon goût pour la peinture, l'esthétique. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du chinois, et que j'ai préféré le chinois à la médecine. Mais là, ça a été une méprise totale, parce que d'abord, la prononciation chinoise est très difficile, j'ai eu un mal de chien, et puis d'autre part, je me suis rendu compte que c'était pas vrai, que l'écriture chinoise n'est pas du tout une écriture idéographique. Ça ressemble à des dessins, mais ce n'est absolument pas des dessins. Ça renvoie à des mots. Il me suis donc trouvé à apprendre une langue difficile, moi, qui n'était absolument pas fait pour apprendre les langues.
Et pourtant, petit à petit,
oui, je me suis
intéressé. Vous êtes entré dedans ?
Oui, peut-être parce que ça avait été difficile. C'était une revanche, en fait, sur mes études ratées de latin, d'allemand, de toutes ces langues. Et finalement, j'ai réussi tout de même à l'apprendre, tant bien que mal, et à m'intéresser à la Chine.
Alors, c'est une belle revanche, Jean Lévy. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié un certain nombre de livres qu'on fait date. Et d'ailleurs, dès le début, vous avez été remarqué par vos professeurs, puisque j'ai sous les yeux l'édition de la Pléiade philosophe taoïste. Elle date des années 60, je ne sais pas exactement quand. Et vous êtes un jeune chercheur qui est mentionné comme ayant déjà collaboré à cet ouvrage.
Non, là, la Pléiade a été... c'était des textes qui ont été publiés dans les années 60, mais qui ont été repris en Pléiade dans les années 80. Il se trouve que je connaissais Étienne et il m'a demandé de faire rapidement... un glossaire de cette Pléiade, parce qu'il ne trouvait personne. Et moi, donc, c'est un peu un travail comme ça, un petit boulot. Mais ce n'est pas du tout que j'ai été remarqué comme, par mes capacités, disons, à cette époque de sinologue.
Alors, Étienne, qui a été à cette époque un peu le père fondateur des études chinoises en France, et quand on reprend ce livre de la Pléiade, on est très étonné par le ton extrêmement virulent de cette préface. Notamment, et on va peut-être avoir l'occasion d'en parler dans l'émission, pour le côté un peu mollasson et niais de tous ceux qui s'intéressent aux philosophies orientales, mais pas de la bonne manière.
Disons, Étienne a toujours eu ce ton polémiste. Hein. C'est pas nouveau. Il n'arrête pas de pourfendre les gens à droite et à gauche contre les maoïstes, mais contre les anti-maoïstes, contre ceci, contre cela. Il a écrit un livre aussi contre Rimbaud. Alors je veux dire, c'est un peu son style. Il était toujours là avec sa rapière en train de donner des grands coups d'estoc. Mais
il était très remonté contre un certain usage de la Chine.
Oui, mais aussi parce que pour lui, il y avait une méconnaissance, et c'était une mode qu'il désapprouvait. Il n'a pas tout à fait tort, mais en même temps, c'est excessif, parce qu'effectivement, les gens qui se sont intéressés à la Chine, parce que c'était l'inconnu, quelque chose qui faisait sortir de leur civilisation et de leur vie quotidienne, c'est malgré tout un bon mouvement.
Il est trop
Passeur de Chine, vous écoutez Tout un monde sur France Culture et nous sommes avec Jacques Pimpano qui vient de publier un roman, Les quatre saisons de Monsieur Vu, avec un W, ainsi qu'un petit texte d'initiation intitulé « À deux jeunes filles qui voudraient comprendre la religion des Chinois ». Alors Jacques Pimpano, revenons à ces étapes qu'ont pu être les vôtres. On a vu le hasard et puis quand vous avez plongé dans cet univers chinois, vous avez pris tout de même des directions assez spécifiques. Et parmi ces directions, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Jean Lévy, on va le voir tout à l'heure, vous êtes beaucoup intéressé aux arts populaires chinois, aux arts de la scène, au fond chamanique chinois.
J'aime beaucoup les arts populaires. Parce que c'est, il y a toute une pensée derrière. Ils sont indissolubles de la religion, et donc c'est comme ça que je me suis mis à m'intéresser à ça. Et comme j'avais eu ces objets donnés par Monsieur Kuokon, donc je me suis dit, à l'origine c'était très peu, donc je voulais créer un petit musée dans un cadre universitaire, mais ça n'a pas été possible. Et du coup, j'ai étendu, et puis je me suis intéressé à ça. Un peu amené par cet événement de ce don de M. Kuo, qui est aussi tout à fait par hasard, qui était basé sur un malentendu, si je puis dire, puisque j'enseignais à l'université chinoise de Hong Kong pendant 3 ans. J'étais un cadeau vivant de la France à Hong Kong, et je servais de cadeau. Et donc... À ce moment-là, j'ai rencontré ce monsieur Kuokon qui se passionnait pour les arts populaires et qui avait invité lors d'un colloque les assistants à venir chez lui voir un opéra joué par les marionnettes chinoises traditionnelles. Et je lui demande quelques questions là-dessus et il me dit « Oh, vous devriez prendre quelques leçons avec eux ». Et donc, je me suis dit « Tiens, c'est une bonne idée comme ça ». Mais j'ai découvert que quand je payais ces leçons, ça rapportait plus à ces pauvres marionnettistes que ce qu'ils gagnaient dans le mois. Parce qu'il y en a un qui était peint en bâtiment, il y en a un autre tapé sur du fer dans un hangar. Et donc, je dis, si j'arrête, c'est terrible pour eux. Et donc, j'ai continué pendant les 3 ans. J'allais jouer avec eux, d'ailleurs, après, quand ils étaient appelés à jouer dans des temples. Et un jour, M. Kuok me convoque et me dit, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça vous passionne comme ça. Je n'osais pas lui dire, c'est pas que ça me passionne, mais je ne peux pas m'en défaire. Et donc... Et il m'a dit, comme mes enfants ne s'intéressent pas à ça, je vais vous donner mes marionnettes et mes instruments de musique. Et je lui ai dit, je ne peux pas accepter ça à titre personnel. Par contre, si vous voulez, on pourrait créer à partir de là, servir de base à faire un petit musée universitaire. Mais ça, ce n'est pas possible parce qu'à l'époque, on m'a dit, non, mais vous êtes complètement fou, les étudiants cassent tout. C'était après mai 68. Et donc, j'ai fait ce que j'ai pu à créer ce petit musée associatif. Puis comme finalement, on n'est pas arrivé à trouver un ancrage en France, tout a été donné à la Fundação Oriente de Lisbonne.
Derrière les masques, derrière les marionnettes, il y a la religion, il y a les pratiques rituelles.
Oui.
Et il y a à la fois les pratiques chamaniques, donc ancestrales, et puis il y a ces trois religions qui sont présentes en Chine, dont vous parlez.
Attendez, pour vous, les trois, c'est quoi?
C'est celle que vous présentez dans « À deux jeunes filles qui voudraient comprendre la religion des Chinois », c'est-à-dire bouddhisme, taoïsme, confucianisme.
Oui, mais... Le premier chapitre, c'est pour dire que le confucianisme n'est pas une religion. À moins que vous considériez que les cérémonies au Panthéon, c'est une cérémonie religieuse pour les grands hommes. Alors à ce moment-là, c'est une... oui.
Vous nous expliquez dans ce livre que les pratiques rituelles sont une sorte d'alternance des trois pratiques et qu'elles cohabitent et que c'est la religion chinoise est sans dogme et que donc un Chinois... contrairement à un occidental qui a obéi pendant de nombreuses millénaires, de nombreux siècles à un dogme, le chinois navigue entre confucianisme, taoïsme, bouddhisme, oui, avec des pratiques rituelles.
Le confucianisme n'est absolument pas une religion. Surtout que Confucius, c'est paradoxal. Lui, quand on l'interroge sur ce qui se passe après la mort, il dit « je sais déjà pas ce qu'est la vie, on ne me demandait pas ce qu'il y a après la mort ». Et qu'on lui demande sur les dieux et les esprits, il répond « j'arrive déjà pas à connaître les hommes, alors on ne parlait pas des... ». Donc on ne peut pas dire que c'est une religion. Par contre, il y a une religion chinoise où interviennent, en effet, comme c'est devenu la doctrine d'État, la religion s'est pliée dans un moule confucianiste d'une certaine façon, pas entièrement, mais il y a eu, évidemment, on a été obligé de faire qu'il n'y ait pas de conflit entre... Mais c'est la même chose pour le christianisme. Le christianisme s'est moulé... Le goupillon s'est moulé dans le sabre des différents États. Et on a vu ce que ça a donné. Pas brillant.
Professeur de Chine, Jacques Pimpano, Jean Lévy. Alors Jean Lévy, votre parcours à vous vous mène aujourd'hui, en tout cas, vers Chuang Tzu. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous partez de la peinture, vous passez par la calligraphie en quelque sorte, qui vous amène à la littérature, à la philosophie, et plus particulièrement à cet auteur un peu inclassable que vous contribuez à nous éclairer dans le petit monde de Chuang Tzu, dont vous avez fait d'ailleurs une traduction il y a quelques années.
Oui. Alors là, il faudrait peut-être que je parle un peu de mon parcours. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un parcours un peu sinueux. Je me suis intéressé à la mythologie chinoise en réaction contre le confucianisme, parce que quand je me suis trouvé face au texte confucéen, ça m'a procuré un ennui terrible. Et comme Confucius dit que le maître ne parle pas de tout ce qui est sauvage, mythe, etc. Je me suis dit donc, ça doit être intéressant. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé d'abord à la mythologie. Et puis, je suis allé en Chine, et là, j'ai découvert la puissance étatique, et c'était le moment où le grand empereur et les légistes, c'est-à-dire le mouvement, les doctrinaires qui avaient fait la théorie du pouvoir absolutiste, donc c'était à ce moment-là que cet aspect était mis en exergue. Donc je me suis intéressé à la formation du pouvoir totalitaire en Chine. Et là j'ai découvert que les fondements métaphysiques du totalitarisme chinois reposait sur une métaphysique taoïste. C'est-à-dire qu'ils sont servis de l'idée du vide et l'idée de la transcendance du Tao pour, en quelque sorte, asseoir, en théorie, en raison, le pouvoir impérial qui est un pouvoir vide.
Ce qui est vraiment paradoxal, puisque se servir d'une philosophie qui prône le non-agir pour instaurer un ordre très autoritaire.
Naturellement, il y a une subversion, ils ont repris toute la métaphysique taoïste, ils l'ont retournée contre elle-même, alors que c'est un mouvement libertaire et de libération. Ils en ont fait un instrument d'asservissement. Mais c'est vrai aussi avec le marxisme, après tout. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est, disons, tout État s'assoit en réalité et assoit sa domination sur, justement, les théories qui permettraient la libération. Après ça, justement, ceux qui veulent libérer les hommes se servent ou subvertissent les théories totalitaires. Mais disons, c'est une dialectique très, très commune. Mais pour moi, à cette époque, ça a été tout de même une découverte. Et je me suis donc intéressé au taoïsme, en quelque sorte, pour voir comment le pouvoir avait pu se servir de quelque chose qui semble être de l'ordre tout de même de la libération pour en faire un asservissement. Et je me suis intéressé à partir de ce moment-là à Zhuangzi, qui est le philosophe de la libération et qui est le plus subversif de l'histoire de Chine. C'est comme ça que j'en suis venu à Zhuangzi.
Il est plus subversif que Lao Tzu.
Ah, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a chez Zhuang Zi une virulence à l'égard du pouvoir et, qui est extraordinaire, parce que ce n'est pas simplement l'ordre, totalitaire et le régime impérial qu'il condamne. C'est toute forme de domination et toute forme de société hiérarchique et finalement toute société. Il est pour un retour à un monde, en quelque sorte, de la liberté totale et de retour à la horde primitive.
Alors éclairons ce personnage de Chuang Tzu qui donne son nom à son livre, puisqu'il s'appelle Chuang Tzu et un livre s'appelle Le Chuang Tzu. Et on n'est pas tout à fait sûr, on est même à peu près sûr du contraire, qu'il soit l'auteur de l'ensemble de l'ouvrage. Il y a apparemment, comme pour l'art de la guerre, il y a un rassemblement de textes évolutifs au fil du temps. Alors à l'origine, il y a quand même un vrai Chuang Tzu, il existe.
Il existe sans exister, c'est-à-dire que finalement, il a droit à une biographie dans l'histoire qui a été écrite par le plus grand historien ancien, qui est Sima Qian, c'est-à-dire au IIe siècle avant notre ère. Il y a mais en réalité, on ne sait rien de lui. Tout ce qu'il racontait sur Zhuang Zi est de la pure fiction. On sait que sans doute il y a eu un personnage qui s'appelait Zhuang Zi, qui a dû exister à un moment donné. On ne sait même pas s'il avait des disciples.
Vers quel moment alors
C'est sans doute le 4e siècle.
Donc à l'époque de ce qu'on appelle les royaumes combattants.
Voilà, c'était la période la plus troublée de l'histoire de Chine, l'une des périodes les plus troublées. Et on ne sait rien de lui, sauf qu'on a ce livre qu'on prétend être en partie composite, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui seraient différents. Mais à mon avis, et c'est le postulat sur lequel j'ai basé toutes mes recherches, c'est qu'il y a une homogénéité malgré tout. C'est une œuvre que l'on doit prendre telle qu'elle est, et c'est le Zhuang Zi avec peut-être des bouts rajoutés, mais c'est comme certains bâtiments historiques qui sont beaux parce que justement ils sont hétérogènes. Et moi, ce que j'appelle le Zhuang Zi, c'est cet ensemble de textes foisonnants, de peut-être divers, d'inégales valeurs littéraires, mais qui forment une sorte de totalité.
Alors, c'est beaucoup des sortes de paraboles, des histoires exemplaires qui sont sur une demi-page et parfois sur 7 ou 8 pages. Ce sont presque des petites moralités légendaires.
Disons, il y a des dialogues, beaucoup de dialogues. Il y a des anecdotes tout à fait mystérieuses, souvent, qui sont énigmatiques. Elles peuvent faire 5 lignes. Et puis d'autre part, il y a tout de même un certain nombre de textes théoriques, tout ça écrit dans une prose divagante. Lui-même parle d'une parole ivre. Il y a une espèce d'ampleur, de fantaisie qui est tout à fait extraordinaire dans le Zhuang Zi. Et alors disons que ce qui m'a intéressé moi, parce que c'était une façon un peu différente de voir le texte, c'est d'étudier le Zhuang Zi comme une sorte de roman. Et de voir ça comme, non pas comme des paraboles où ce qui comptait c'était la pensée, mais voir ça comme une série de personnages qui se rejoignent les uns les autres et qui forment par leur relation un univers, et à travers cet univers se dégage un univers philosophique. Mais c'est à travers les relations entre les personnages, et chaque groupe de personnages définit des problèmes philosophiques. Par exemple, Confucius, en relation avec Lao Tzu, définit et subvertit la relation pédagogique. C'est contre le Confucius pédagogue et contre cette espèce de moralité de genre. C'est la relation pédagogique qui est mise en cause. À travers les deux autres personnages qui sont toujours en polémique, c'est-à-dire Zhuang Zi, mais un Zhuang Zi fictif, et Hui Zi, qui est l'un des plus grands sophistes de l'époque, c'est en réalité le discours comme arme politique. Et dans toutes les déviances qu'il peut amener, les déviances totalitaires, qui est en quelque sorte dénoncée.
Alors ce qui frappe le lecteur qui découvre Zhuang Zi, c'est qu'on est toujours dans le ne pas, dans le non. Alors vous parlez, vous, Jean Lévy, d'une forme d'ontologie négative, mais si on voit bien le non, on ne voit pas bien où est l'adhésion. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui se déboîte à perte de vue.
C'est-à-dire que dans la mesure où il est subversif, il est dans le négatif. Mais c'est bien parce qu'on est dans une époque tout de même où tout est positif. On est dans une moralité où il s'agit d'établir un pouvoir, de parler d'autorité. Et lui, il est contre cet univers. Donc, il est forcément dans la négativité. Et disons, le Tao, c'est la négativité même à l'œuvre.
De quelle manière ?
Parce que le Tao, à mon avis, hein, parce qu'il y a beaucoup de façons de le définir, mais je pense qu'à cette époque, le Tao se définit comme le non-être. Un non-être qui est agissant dans la mesure même où il n'a aucune qualité, aucune détermination. Et c'est cette indétermination qui fait sa puissance. Et c'est dans la mesure où il est sans qualité qu'il a toutes les qualités, si je puis m'exprimer ainsi.
On peut donner quelques petits extraits. Je suis désolée, ce n'est pas dans votre traduction, mais c'est dans celle de la Pléiade. Et c'est toujours sur le mode « le saint est ignorant et simple ». Donc, alors, c'est une critique de quoi ? Du savoir, de l'acquisition de la connaissance, qui est souvent jugée épuisante. Il y a ce terme épuisant. Activité, acquisition de connaissance, ça fatigue, donc ça diminue la longévité.
Oui, c'est-à-dire que ça dépend quelle acquisition de la connaissance, mais disons, la véritable connaissance est non-connaissance. Ce qu'on appelle, et en même temps, disons, ce qu'il reproche à l'acquisition de la connaissance et au savoir, c'est qu'il est fondé sur les catégories du langage. Et à partir du moment où il y a langage, il y a division du monde en entités discrètes. À partir du moment où il y a entités discrètes, il y a propriété. Et à partir du moment où il y a propriété, il y a nécessairement domination et aliénation. Donc c'est en tant que la connaissance repose sur la maîtrise du langage, d'un certain type de langage, qu'il y a condamnation de cette connaissance. Et la véritable connaissance, c'est de retourner à cette espèce d'appréhension globale d'un univers où il n'y a absolument aucune catégorie.
Il y a la non-allégeance à ce qui fait habituellement les liens humains. Alors, il y a un passage dans le Chuang Tzu où on parle de la mort de sa femme et Chuang Tzu manifeste une indifférence totale, en tout cas extérieurement, à la mort de sa femme.
Oui, oui, même une joie après, puisqu'il commence à battre le tambour. Mais naturellement, mais il y a un côté justement provocateur chez lui. Et il pousse la provocation très loin. Mais il y a aussi effectivement une sorte d'indifférence qui est voulue, qui est recherchée. Le sage taoïste est un homme sans qualité. C'est-à-dire qu'il est totalement inhumain. Il est insensible. Et c'est un côté finalement qui va très loin dans le taoïsme et qui peut rebuter. Effectivement, mais parce qu'on dit toujours le sage qui sourit. Mais il n'est pas tellement souriant, le sage du Guangzhou.
Passeur de Chine, Jacques Pimpano, Jean Lévy. Alors pour plonger dans ce monde de Chuang Tzu, il faut beaucoup de temps. C'est une œuvre foisonnante, complexe. Et comme vous êtes des passeurs et que nous sommes des lecteurs qui essayons d'entrevoir la richesse du monde chinois et surtout de savoir ce que nous pouvons en tirer pour élargir notre perception du monde, approfondir certaines intuitions. J'aimerais vous demander maintenant à tous les deux que pouvons-nous faire de cette religion des Chinois, de cette philosophie chinoise, de quelle manière un occidental ou une occidentale peut, en plongeant dans cet univers, faire autre chose qu'une démarche d'exotisme, de quelle manière on peut vraiment en tirer quelque chose de personnel pour sa vie. Alors Jacques Pimpano.
Évidemment qu'on peut en tirer, puisque, vous savez, en soulevant ce problème, faites penser à ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle en Chine. Alors, ici, les gens disaient, enfin, les maoïstes disaient, que oui, c'est terrible ce qui se passe, mais il faut respecter, les Chinois, c'est différent de nous. Nous, évidemment, on peut trouver ça sujet à, mais... les autres, il faut les respecter, il ne faut surtout pas attaquer, etc. Comme s'ils étaient des gens différents de nous.
D'un autre monde.
D'un autre monde, c'est complètement faux. Le mot « avoir faim » a le même sens dans tous les pays du monde, et même le mot « liberté ». Maintenant, ce qu'on fera de sa liberté ou les plats qu'on mangera vont varier d'une culture à l'autre. Mais sinon, les mots ont le même sens. Et la vérité est la même du côté des Pyrénées. Mais la seule différence entre les cultures, c'est qu'ils ont, c'est les mêmes gens, mais ils ont une expérience historique différente. Et c'est l'expérience historique différente qui fait qu'il y a des différences culturelles. Mais comme c'est comme des gens comme nous, évidemment qu'on peut profiter de leur expérience. Et les Chinois, de ce point de vue-là, ont une expérience du totalitarisme qui est plutôt assez extraordinaire et qui est toujours ce courant, justement, de réaction contre le totalitarisme. À propos de Zhuangzi, quand j'étais étudiant à l'Université de Pékin, après avoir fini les études ici, j'avais une professeure de langue qui était une femme remarquable dont le mari était bibliothécaire à l'Academia Sinica. Des gens extrêmement cultivés. Et cette dame, pour vous dire qu'elle était tout à fait ouverte, venait là, elle me disait, bon, je sais que les textes qu'on lit en classe le matin, pour vous, ça doit, c'est pas ce que vous attendez. Et donc, l'après-midi, elle me donnait des leçons sur la littérature classique, elle m'expliquait les textes, etc. Et donc, un jour, comme ça, je lui demande, est-ce que je lui parle de Zhuangzi? Et elle me dit, mais j'ai jamais lu Zhuangzi. J'ai dit, comment, vous n'avez jamais lu Zhuangzi? Elle me dit, non, mon mari me l'interdit. J'ai encore plus étonné, parce que le mari bibliothécaire à l'Académie des sciences, extrêmement savant. Et elle m'a dit, oui, mon mari m'a dit, tu ne peux pas lire Zhuangzi avant 30 ans. Parce que tu comprends, dans la vie, il faut avoir lu des livres. Alors jusqu'à 30 ans, tu passes ton temps à lire d'autres livres. Parce que le danger avec Zhuangzi, c'est qu'une fois que tu as lu Zhuangzi, tu n'as plus envie de lire d'autres livres. Donc, il faut d'abord en lire d'autres. Parce que, pour vous dire que, bon, c'était des gens qui avaient été très sensibles à ce côté justement libertaire de Zhuangzi.
Alors, justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure avec vous, Jean Lévy, de quelle manière, je vais vous poser la même question qu'à Jacques Pimpano, de quelle manière, à partir de cette conduite, de cette approche radicale du monde, tirer quelque chose de Zhuangzi qui opère une séduction, mais qui, à certains égards, il y a des passages qui peuvent paraître scandaleux, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un éloge de l'égoïsme absolu. Ça peut être pris comme ça. Ça peut être un éloge de la non-intervention, quoi qu'il arrive, puisque on imagine le sage dans son coin, cultivant sa longévité, cultivant son plaisir de vivre dans l'harmonie, dans la simplicité. Que va-t-on faire de cette philosophie-là? Et pourquoi opère-t-elle une telle séduction?
Disons, tout d'abord, je voudrais dire que on parlait du terme de passeur. Alors, le terme de passeur est un terme qui, à mon avis, est un peu, disons, ambigu et qui ne correspond pas, en tous les cas, exactement à ce que je fais, parce que j'ai le sentiment que je ne fais pas vraiment passer quelque chose dans la mesure où ça voudrait dire que j'arrive à mettre Zhuangzi à la portée des autres et le rendre accessible.
Or, vous semez des petits cailloux sur notre chemin quand même.
Il faudrait d'abord, je les sème surtout sur mon propre chemin, parce que moi, Zhuangzi est un auteur difficile, et lui-même, et pour les Chinois, il est très difficile, et à son époque, il n'était pas compris. Et lui-même, peut-être, ne se comprenait pas lui-même. Il a dit tout de même dans son œuvre que son texte était une énigme, et que peut-être dans 10 000 ans, il y aurait un sage qui serait capable de comprendre sa pensée. Mais en tous les cas, ce serait sans doute une rencontre de hasard, c'est-à-dire que sans doute personne jamais ne comprendra Zhuangzi. Et effectivement, c'est un texte extrêmement difficile. Et moi, j'essaye de le comprendre et je fais participer les autres de cet effort de compréhension. Mais ce n'est pas du tout que je leur donne, en quelque sorte, leur livre de façon, en quelque sorte, simplifiée et claire. Un texte qui est forcément obscur et difficile. Ce qu'il y a avec Zhuangzi, c'est qu'il y a des, tout de même, et c'est pour ça que je le trouve extraordinaire, c'est que dans ces petites anecdotes, on a le sentiment d'une révélation, mais cette révélation ne vient jamais. Ceci dit, elle peut servir malgré tout à la compréhension de notre monde à certains moments, parce qu'il y a des fables extraordinaires. La fable, par exemple, des singes. Des trois châtaignes le matin, des quatre châtaignes le soir, est une histoire merveilleuse. Et qui,
qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Eh bien, c'est l'histoire de, finalement, de la, c'est la vie politique exprimée en trois mots. Eh bien, c'est un éleveur de singes qui adore les singes, qui comprend très bien leur psychologie. Or, un jour, il y a une famine, et alors qu'il leur donnait toujours quatre châtaignes le matin et quatre châtaignes le soir, il est obligé de restreindre leur ration, et il leur donne à ce moment-là trois châtaignes le matin et quatre le soir. Il se produit une révolte chez les singes qui, furieux, commencent à vouloir agiter les barreaux de leur cage. Et alors, pour les calmer, l'éleveur de singes dit « Désormais, vous avez parfaitement raison, ce sera quatre le matin et trois le soir. » Et à ce moment-là, les singes, ayant l'impression d'avoir remporté une grande victoire, se recouchent satisfaits.
C'est une parabole.
Oui, c'est la parabole de la politique. Et aussi l'autre, et la victoire des singes et la victoire syndicale par excellence. Et donc on voit bien le monde. Mais à ceci dit, ça va beaucoup plus loin, parce qu'on peut se demander pourquoi que derrière disons, ce rapport entre les singes et l'éleveur de singes, il y a tout de même le sentiment que les singes qu'ils ont remporté une victoire dans la mesure où l'éleveur a dû tenir compte de leur sensibilité. Et donc, il y a tout un jeu aussi sur ce qu'est la nature humaine. Donc, c'est ce genre d'histoire de Zhuangzi qui nous font comprendre, mais de façon très profonde, finalement, la nature des rapports humains. De la même façon, dans beaucoup... on parle d'indifférence, mais par exemple, c'est vrai qu'il a le sentiment que d'à partir du moment où on va vers l'autrui, mais qu'il y a ce sentiment d'attendrissement sur ses gestes de bonté, on tombe dans le pire des mondes. C'est-à-dire qu'il y a une critique très, très virulente et très juste de l'humanitaire. Et quand on voit ce que c'est que l'humanitaire à l'heure actuelle et le discours humanitaire, on ne peut que lui donner raison et se dire que les gens qui se tiennent en retrait sont parfaitement, finalement, presque des êtres moraux, bien qu'ils sont, Zhuangzi est tout à fait anti-moral. Et pour finir, c'est vrai qu'il a l'air d'être en retrait complètement de la société, mais en même temps, il a écrit un livre. Et le livre vise à produire un effet sur nous et nous convaincre.
C'est un mouvement vers l'autre.
Oui, c'est un mouvement vers l'autre et finalement, il s'adresse à un lecteur. Et il y a quelqu'un qui cherche à convaincre, qui est finalement le sujet auquel s'adresse Zhuangzi et qui doit être transformé et convaincu, c'est le lecteur. Donc il a une action politique et il a une action sur le monde.
Yeah.
Passeur de Chine, Jean Lévy, Jacques Pimpano. Là, on est dans la Chine tout à fait contemporaine. Alors, à lire Le Petit Monde du Chuang-Tzu que vous venez de sortir, Jean Lévy. Également, Jacques Pimpano, alors un mot tout de même de ce roman que vous venez de sortir, Les Quatre Saisons de Monsieur Wu. Qui semble être au fond l'histoire de quelqu'un qui applique les thèses de Chuang-Tzu. C'est un petit monsieur qui essaye sans arrêt de tracer sa route indépendamment des pressions, avec un regard extrêmement caustique sur toutes les formes de pouvoir auxquelles il est confronté, avec une grande distance dans tout ce qui peut faire les attachements humains, qui évite les passions. Et qui vit ces quatre saisons, qui sont quatre saisons allégoriques de la vie humaine.
Ça commence par l'hiver, oui, et voilà. C'est son enfance. Parce que ça m'énerve, les gens qui vous parlent toujours de leur enfance heureuse, et puis quand on finit par creuser un peu, on s'aperçoit que tout le monde a eu des enfances plutôt malheureuses, que c'est la période la plus difficile de la vie. C'est pas la vieillesse comme on le raconte, la vieillesse au contraire, c'est confortable. On peut enfin profiter un peu de...
Bon, c'est le bilan que vous en tirez, Jacques Pimpano, oui. Né en 1934.
Oui,
donc.
Je trouve que la vieillesse est la meilleure période. Et il y a un côté automne, c'est en effet, les feuilles jaunissent, mais c'est la plus belle couleur. L'hiver, c'est la période la plus dure, c'est l'enfance. Et puis, après ça... Le printemps, c'est l'épanouissement parce qu'il rencontre plein de gens. C'est un Chinois du XVIe siècle. Hein. Il rencontre plein de gens. Il est amené ainsi à élargir son regard sur le monde.
Et toujours puis, avec une forme de distance. Il est toujours quand même extérieur à la fois à ce qui lui arrive à lui et connecté d'assez loin avec les autres. C'est-à-dire, c'est un homme qui fait toujours un pas de côté, qui applique.
Ah oui,
vous le présentez comme ça, qui semble appliquer justement cette religion chinoise où se marient le bouddhisme et le taoïsme, oui, c'est-à-dire je ne suis jamais vraiment dans ce que je fais.
Oui, il faut dire que c'est un Chinois du XVIe siècle, donc il avait étudié le bouddhisme et le taoïsme d'ailleurs. Et à l'été, justement, c'est la période du mûrissement, et là, il a envie d'en savoir plus. Et si vous voulez, c'est un peu le prolongement de l'autre livre qui explique à mes petites filles la religion chinoise en essayant d'aller
de faire
un
la
peu
synthèse.
Contre les idées. Et alors là, reçu là-dessus, et dans le roman, de ce Chinois, ce monsieur Wu veut en savoir plus et il va au Mont Homé. Et il rencontre un bonze et il lui pose des questions sur le bouddhisme. Et puis, il n'est pas tout à fait satisfait. Alors, il va sur la montagne d'à côté où il y a un monastère taoïste. Et là, il va questionner le taoïsme sur la pensée de Lao Tzu et de Chuang-Tzu. Et on sent d'ailleurs qu'il est plus satisfait par ça que par le bouddhisme. Enfin, dans le bouddhisme, il voit des choses à prendre très intéressantes. Si vous voulez, c'était pour donner de façon, pas universitaire, mais de façon un peu distrayante, de donner un peu une ouverture, si vous voulez, sur la pensée à la fois du bouddhisme et du taoïsme pour tout le monde, enfin, je veux dire.
Et cet homme finit très heureux. Il n'a pas eu de très grands attachements ou de très grandes passions dans la vie, mais il termine dans une forme d'harmonie, entouré de ses amis et même avec, tout à fait à la fin de sa vie, une passion amoureuse, enfin, un attachement amoureux très fort.
Ah oui. Oh ben, c'est des choses qui arrivent. Parce que je vais vous dire que les deux livres que je préfère dans la littérature chinoise, le numéro 1, c'est Chuang-Tzu, et le numéro 2, c'est Six récits d'une vie flottante, qui est un roman du 18e siècle, enfin, une autobiographie du 18e. Il n'en reste que 4 chapitres sur les 6, et 2 ont disparu. Et qui est une histoire amoureuse. Et évidemment que j'ai pensé à ce livre en écrivant le dernier chapitre.
Leçon de vie, cette histoire de Monsieur Wu.
Oh non, je...
Ça ne va pas jusque-là.
Non, je ne vais pas donner des leçons aux gens. certainement pas. Par contre, j'ai essayé d'imaginer la vie la meilleure possible d'un Chinois qui aurait vécu au XVIe siècle.
Voilà deux ou trois choses qu'ils savent de la Chine et qu'ils cherchent à nous dire. Jacques Pimpano, Jean Lévy. Jean Lévy, ce petit monde de Chuang Tzu, donc paru aux éditions Piquier, comme le sont d'ailleurs les deux livres de Jacques Pimpano. Et puis, un mot sur cet art de la guerre, puisque au fond, cette question, je la reprends. Quand on lit Sun Tzu, l'art de la guerre, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, pour notre vie personnelle, notre philosophie de l'existence? Faut-il être comme l'eau, comme cette armée qui suit la pente descendante et qui épouse les circonstances?
Oui, ça peut l'être, mais disons que le conseil donné par Sun Tzu, tout de même, c'est que la guerre est quelque chose de dangereux et qu'on doit la faire qu'à son corps défendant. Alors, prendre ce livre comme, disons, un bréviaire pour votre vie quotidienne, c'est très mauvais, dans la mesure où c'est un livre qui ne sert qu'en cas de nécessité absolue. Et alors le mieux, c'est de prendre le Sun Tzu malgré tout et d'avoir à le lire le moins souvent possible. Pourtant, c'est un très beau texte. Mais disons, se dire qu'on va vivre dans un monde où on devra avoir le Sun Tzu à portée de la main, c'est un monde effrayant. C'est une pensée qui n'est pas très rassurante. Alors justement, mon travail sur ce texte, c'était pour essayer de l'éloigner du monde contemporain et de le replacer dans son contexte de l'époque chinoise. C'est pour ça qu'il y a des textes qui sont mis en parallèle, qui sont des contemporains de Sun Tzu. Il y a aussi des images qui l'insèrent dans l'univers chinois. J'ai essayé de faire le contraire de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire au lieu de dire, voilà, on va prendre le Sun Tzu parce que ça va vous servir dans votre vie de combattant, hein. Ça va vous servir à gagner des points, à marquer des
points. Et à faire des affaires.
Et à faire des affaires et à faire des malheureux, hein, et faire des victimes. Et ben, je me suis dit, non, je le remets dans son univers chinois et très loin de nous.
Enfin, il y a quand même une petite leçon à tirer, c'est aussi que celui qui ne dit rien et qui ne se livre pas est plus fort que celui qui se dévoile.
Oui, oui, alors là, ce serait une leçon que peuvent prendre tous les hommes politiques contemporains, surtout ceux maintenant que nous avons comme autour de nous, qui ne cessent de s'agiter. Il apprend qu'il faut être le plus effacé possible. C'est un conseil qu'on peut leur donner.
Merci Jean Lévy. Sun Tzu, l'art de la guerre, on va dire que c'est un très très beau livre, illustré d'ailleurs avec, grâce au travail de votre ami et complice, également sinologue,
Alain Toth, oui.
Alain Toth, archéologue, et c'est aux éditions Nouveau Monde. Voilà, on finit cette émission en regardant vers un Orient un tout petit peu moins lointain, puisqu'il s'agit des belles musiques du Tadjikistan. Et on entend notamment le luth tambour de Abdulvali Abdourachidov, qui sera à Paris dans le cadre des concerts de musique du monde du Théâtre de la Ville, en l'occurrence au Théâtre des Abbesses. Ce sera le 13 décembre. D'autres pistes de réflexion, de lecture sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde. Je vous signale d'ailleurs quelques expositions qui concernent la Chine, notamment au Centre culturel de Chine à Paris en ce moment, une exposition de porcelaine. Également, je vous signale une rencontre. Alors, on n'est plus en Chine, mais on est dans le cadre d'un hommage à une femme qui a tout à fait, elle aussi, été une passeuse, cette fois entre l'islam Et les autres religions du livre, Eva de Vitré-Meyerowitz, notamment traductrice de ce magnifique poète qui est Rumi, et Eva de Vitré-Meyerowitz, on lui rendra hommage le dimanche 19 décembre. Toutes les coordonnées donc sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde. Voilà, tout un monde qui se termine au son de ce luth tambour. À la technique se trouvait Olivier Dupré, à la réalisation Anne de Pelchin, tout un monde. Chaque dimanche, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissé. Sur France Culture, la suite du voyage dominical dans quelques instants avec Mathieu Garrigou-Lagrange.